Canal Sud 92.2, bonjour. C'est bientôt contre histoire.
Que la victoire, qui nous combattait fiers guerriers, rend à la France ses lauriers, son rang et son antique gloire.
Chantons la liberté, défendons la cité, marchons,
marchons,
marchons.
Assez de phrases solennelles, assez de mots vides de sens,
assez de mots vides de sens.
France est la plus belle victoire, c'est la conquête de tes droits, ce sont là tes plus beaux exploits, que puisse enregistrer l'histoire.
Chantons la liberté, défendons la cité, marchons,
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 sans sourde râle, le peuple aura du pain.
Peuple, que l'honneur soit ton guide, que la justice soit tes lois, que l'ouvrier ne soit plus avide du manteau qui couvrait nos rois,
du manteau qui couvrait nos rois,
que du sein de la nuit profonde où l'enchaînait la royauté, le flambeau de la liberté s'élève et brille dans le monde.
Chantons la liberté, défendons la cité, marchons,
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 sans sourde râle, le peuple aura du pain.
Bonjour tout le monde. Depuis les années 70, j'ai fait quelques manifs. J'en garde des souvenirs. Dans l'encyclo, j'ai séché la rose achetée dans la manif parisienne pour venir au secours des enfants orphelins et sous-alimentés du Chili en 1975. Je me souviens aussi d'un très jeune garçon rencontré ici, à la manif anti-Le Pen. On avait partagé notre casse-croûte. Maintenant, les manifs, je les rêve plutôt. Je vais vous raconter celle des femmes que j'ai rêvé il n'y a pas très longtemps et que j'ai noté et enrichi au petit matin, en urgence. J'ai souvent remonté les manifs à l'envers, avec une belle pancarte. C'est pas un mauvais plan. C'est ce que j'ai encore fait cette fois-ci en rêve. Et ça m'a fait un sacré voyage dans le temps, jugé plus tôt. J'ai vu qui s'allongeait l'image colorée qui bien trop tôt s'en est allée. Une troupe de femmes marchant sous les bannières. Quelques hommes étaient là et aucun par hasard. Les pancartes en couleur me cachaient les visages. remontant d'Esquirol jusqu'à Arnaud Bernard. Je pus y lire alors les noms et les messages.
Dans un corps vide entrait mon âme, tout à coup être une autre femme, et que Juliette nous rédine en l'une ou l'autre sans racine, et lire parmi les éminentes celles qui me feraient frissonnante, parmi toutes celles qui surent s'ébattre, qui surent aimer, qui surent se battre, mes sœurs innées, mes philippines, mes savantes et mes bécassines, Julie, Juliette ou bien Justine, toutes mes rimes féminines, Clara Zetkin, Anaïs Nin, ou Garbeau dans la reine Christine, sur le céleste carousel, choisir entre ces demoiselles, Camille Claudel, Mamselle Chanel, ou l'enragée Louise Michel, vivre encore colombe ou rapace, écrire, chanter ou faire des passes, Margot Duras, Maria Callas, ou bien Kiki de Montparnasse. Naître demain, renaître hier, en marche avant, en marche arrière, m'incarner dans ses divergences, ses beautés, ses intelligences, et jouir du bienheureux trépas, pour dans leurs pas mettre mes pas. Musidora, la Pavlova, ou mon aïeul, la grande gueule Teresa, que j'en ai l'esprit ou l'aspect, ou bien même les deux, s'il vous plaît. Juliette Drouet, la signore, ou la grande Bulliolidée, tout voile dehors et en chantant, avec l'une d'elles me révoltant, Flora Tristan, Yvonne Printemps, ou la farouche Isadora Duncan, pour toute arme ayant leur fierté, pour amante la liberté, les sœurs Bronte, Loïs Labbé, ou Louandrea Salomé. Même s'il faut en payer le prix, être la fleur, être le fruit, être Alice Guy, être Arletty, Marie Dubas, Marie Curie. Mais s'il vous plaît, point de naissance, de jeunesse ni d'adolescence, épargnez-moi la chambre rose, soyez bonne, mais en psychose, permettez à votre Juliette de ne point mûrir en Minette, mais en Colette, en Mistinguette, ou pourquoi pas Madame de Lafayette. Mettez-moi, je vous le demande, instamment dans la cour des grandes, Judy Garland, Barbara Streisand, ou cette bonne dame de George Sand. Placez-moi du côté du cœur, côté talent, côté bonheur, Loïc Fuller, Dottie Parker, ou Sainte Joséphine Baker. Tout de suite, les feux de la gloire, les feux de la rampe et de l'histoire, la Yourcenar, Sarah Bernard, ou la très sage Simone de Beauvoir. Une voix d'argent au fond d'un port, une plume d'acier ou un cœur d'or, la Solidor, Christiane Rochefort, ou Marceline Desbordes-Valmore. Les belles sans peur et sans marmaille, toutes nues au port de la mitraille, Sylvia Bataille, Anna de Noailles, camarade Alexandra Kollontai, et les agitatrices de bouche brandissant l'espoir et la gouge, Hollande de Bouge, Rosa Larouge, et la vieille Germaine de Montrouge. La lignée des dominatrices, l'Élise, Madame, Donia ou Miss Concariatis, ou les dames Angela et Bette Davis. Le train du diable et ses diablesses, les vénéneuses et les tigresses, Lola Montes, Gina Manès, et l'empoisonneuse Portia Lucrèce. Enfin j'ai, pour être sincère, du goût pour les belles arrangères, Yvette Gilbert, Claire Bredegère, j'irai même jusqu'à Anne Sinclair. Mais si tant de souhaits vous chagrinent, s'il est contraire à la doctrine de viser haut dans les karmas, alors faites dans l'anonymat, en attendant que tout bascule, que Satan ne me congratule ou que les anges me fassent la fête. Permettez une ultime requête, faites-la renaître, votre frangine, en n'importe qui, en fille d'usine, en fille de rien ou de cuisine, en croate ou en maghrébine, en éponine, en clémentine, en Malka, Malika ou Marilyn. Et si votre astral cuisine par hasard ne le détermine, j'accepterai par discipline de revenir en cabotine, en libertine, en bourgandine. Tiens, en Juliette Nourédine.
Et nous allons retrouver quelques-unes et même beaucoup de ces dames. La première banderole déployée, haute et large, nous rappelait hier Sohan et Scheherazade. Rappelons-nous Sohan, qui mourut dans les flammes criminelles et idiotes de ce machisme honteux, qui, sans travail ni gloire, n'avait pour s'affirmer au milieu du béton que les coups et le feu. Et Scheherazade aussi, des mois et des années, attendit sans visage, entre greffe et scalpel, de retrouver le monde, de revoir le soleil. Et Taslima Nasrin, son panneau blanc brandi, rappelle qu'au Bangladesh, son si lointain pays, et en Inde aussi, la mort l'attend, elle, médecin en lutte contre la barbarie. Ozan Palsy, je m'en souviens, elle fut la première femme noire à créer un film hollywoodien. Rue Cazenègre, marchait aussi Anne Sylvestre, et puis encore Renaud, et Djoura la Kabyle, qui lutte pour chanter, pour vivre en liberté, à Paris, à Alger. Et puis Meret, enlevée si loin de son Érythrée, n'étant plus à Paris qu'une esclave moderne. Et maintenant un vinyle, si on a tous le courage.
Une maison de bonne aloi, juste ce qu'il faut de mousse répartie aux bons endroits, assez de murs pour connaître une chaleur bien à soi, et ce qu'il faut de fenêtres pour regarder sans effroi. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Elle ouvrait parfois sa porte à ceux qu'elle choisissait. La serrure n'est pas forte, maison, tu n'as pas de clé. Mais avec sa confiance, jamais elle ne pensa qu'on pût user de violence pour pénétrer sous son toit. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Advint qu'un jour de malchance, une bande s'approcha. On sonne à la porte, on lance des coups de pied, ça et là. À plusieurs on s'encourage, on prétend qu'elle ouvrira. Et commence le saccage, la porte on l'enfoncera. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Sauvagement ils pénètrent, dévastant tout devant eux. Ils obligent les fenêtres à s'ouvrir devant le feu. Avec leurs couteaux ils gravent des insultes sur les murs et s'en vont faisant les braves quand tout n'est plus que blessure. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. La maison, depuis ce crime, n'a plus d'âme ni de nom. Mais elle n'est pas victime, c'est de sa faute, dit-on. Il paraît qu'elle a fait preuve d'un peu de coquetterie avec sa toiture neuve et son jardin bien fleuri. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. ailleurs. Une maison sage ne reste pas isolée. Celles qui sont au village se font toujours respecter. Quand on n'a pas de serrure, il faut avoir un gardien. C'est chercher les aventures que de fleurir son jardin. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Passez par la route, et si vous avez du cœur, vous en pleurerez sans doute. C'est l'image du malheur, mais rien, pas même vos larmes, ne lui portera secours. Elle est loin de ses alarmes, elle est fermée pour toujours. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. J'ai raconté l'histoire de la maison violentée. C'est pas pour qu'on puisse croire qu'il suffit de s'indigner. Il faut que cela s'arrête, on doit pouvoir vivre en paix. Même en ouvrant sa fenêtre, même en n'ayant pas de clé. Non, non, je n'invente pas, moi je dis ce que je dois.
Merci, merveilleuse Anne Sylvestre. La Samira Bellil, à 14 ans violée, qui dit enfin au monde l'enfer qu'elle a vécu, cet enfer des tourmentes, en espérant qu'alors cesseront ses supplices. Et voilà Fadela Amara, ni pute ni soumise, qui nous apprend le choix, refus et liberté de nos corps, de nos vies et de notre avenir. Samira Makhmalbaf, la lumineuse artiste derrière sa caméra, qui ose et qui défie de son Iran natal violence et tyrannie. Et Yasmina Khadra, qui sous un nom de femme sait œuvrer pour la paix, quand on avait voulu en faire un militaire. Et puis Michèle André, la ministre des Femmes, qui nous ouvrit enfin la première des refuges. Arrivent Benoît et Flora Groult, qui, de leurs quatre mains, surent creuser la brèche de notre liberté. Contre les colonels, Mélina Mercouri, et le prix de la paix à Shirin Ebadi, la grande Elisabeth Badinter, qui aux femmes rend la liberté de penser, d'exister. Le panneau Marie-Claire nous rappelle qu'à 16 ans, elle a été violée et bientôt dénoncée par son violeur même pour avoir avorté. Et Gisèle Halimi, en toute dignité, força le tribunal enfin à écouter la mère magnifique et quelques grands pontifes, professeurs Minkowski, Monod, Friedman, Mies, qui ont enfin osé, ont parlé, ont brisé le tabou criminel qui nous ensanglantait quand ils ne tuaient pas. Celle qui sans argent décidait un matin de ne plus être un ventre, de choisir et leur vie et celle de leurs enfants. Tous firent la loi Veil et notre liberté, que la grande Simone a enfin rédigée. 343 autres femmes et hommes défilaient en portant leurs panneaux de fierté. Et célèbres ou non, ils ont aussi clamé avoir eux aussi, en bravant la prison, la honte et l'anathème, choisi leur liberté, choisi d'aimer l'enfant qui leur naîtrait d'amour quand ils pourraient vraiment l'accueillir au grand jour. Et j'ai vu porter haut les noms de Jean Daniel, Jeanne Moreau, Françoise Fabian, Daniel Lebrun, François Truffaut, Françoise Malé-Joris, Bulle Augier, Kate Millette, Bernadette Lafont, Anne Fabrelus, Véronique Neyertz, et Beauvoir et Duras, Romy Schneider et Michel Vian, Lolé Bellon, Micheline Prel, Stéphane Audran, Françoise Daubonne, Annie Leclerc, Delphine Sérig, Marina Vladi, Samy Frey, Ariane Nouchkine, Marie-France Pizier et Nadine Trintignant, Agnès Varda, Gabi Sylvia, Catherine Deneuve, Françoise Sagan, Madeleine Pelletier, Olga Poliakoff, Christiane Rochefort, avant eux, Simone If, du Planning, avait créé le MLAC, Mouvement de libération de la contraception et de l'avortement, et ses week-ends anglais. Et aux années 60, ce tout jeune député, c'était Michel Rocard, qui devant l'Assemblée défendit le premier amendement à cette loi inique de 1920 qui nous condamnait toutes alors, exclusivement, à la reproduction. Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense, non, non, tu n'as pas de nom. Tout au fond de moi, je t'aime, mais je te veux sans problème. Aujourd'hui, je te refuse. Qui sont-ils ceux qui m'accusent? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine, me mettra au rang de chienne. C'est une bataille lasse qui me laissera des traces, mais de traces je suis faite, et de coups et de défaites. Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense, non, non, tu n'as pas de nom.
J'ai vu aussi la pancarte du philosophe Pierre Bourdieu, l'auteur de La domination masculine. Celle de Françoise Giroud, qui apporta l'Express à la cause des femmes. Celle de Christine Delphi, fondant le MLF, osant dire exploiter cette femme corvéable à merci que plaignait tristement Jean Ferrat, lui aussi. Djamila Boupacha, militante FLN, violée et torturée par nos parachutistes. Je n'ai vu que son affiche. Et celle de Habib Bourguiba, souffrant de voir sa mère abandonnée par son père polygame et qui dota son pays de lois laïques et féministes. J'ai vu la tignasse de Colette, l'insolente, à qui seul son talent fit alors pardonner son goût de liberté. C'était jointe à cela la grande Federica Monseni, qui, ministre en Espagne, légalisait l'avortement en 1934. Kemal Atatürk marchait avec celle à qui il donna le droit de vote en 1929. 1929 en Turquie, parfaitement. Suivait Clara Zetkin, la journaliste qui nous laissa le 8 mars en souvenir, après avoir tant lutté pour l'égalité et notre droit de vote. Et puis, sur des parapluies, j'ai lu Emmeline Pankhurst et Millicent Fawcett, les suffragettes anglaises qui surent conquérir le droit de vote en 1918. À côté, sac au dos, il y avait Alexandra David-Néel, journaliste de la Fronde, militante acharnée des droits économiques des femmes, que sa vie illustra incroyablement. Influencée par Élisée Reclus, présent lui aussi, et amie anarchiste de son père, elle fut la première exploratrice en Chine et en Inde, et redemanda un passeport en 1969. Elle avait 100 ans et demi. Il y avait aussi Eugène Imbert, anarchiste et syndicaliste, qui diffusa les idées malthusiennes. Et puis aussi Hélène Brion, arborant son encyclopédie des femmes, institutrice syndicaliste qui fut arrêtée pour pacifisme et déchue de son poste d'enseignement. Marguerite Durand et son journal La Fronde, qui la défendit et la fit réintégrer, l'accompagnaient bien sûr. Elle fut une des premières femmes à se présenter aux législatives en 1910 et aux municipales de 1927. La bibliothèque Marguerite Durand à Paris conserve ses œuvres et des trésors littéraires, journalistiques et législatifs du féminisme. Il y avait là aussi Séverine, la grande journaliste courageuse et redoutée pilier de la Fronde, qui lutta aussi pour défendre Dreyfus, Sacco et Vanzetti. J'ai aussi vu Paul Robin, l'enseignant membre de l'Internationale, qui dirigea un orphelinat en y pratiquant ses théories égalitaires d'enseignement, développement de l'être entier et mixité. Il faudrait qu'on rappelle ça à notre nouveau ministre. Il a vulgarisé les idées d'eugénisme. Il y avait aussi Joseph Garnier, professeur d'économie politique, qui améliora l'instruction populaire et commença à évoquer la limitation des naissances. Je crois même avoir aperçu Michelet, Jules, bien sûr, l'historien gigantesque, un des premiers à écrire sur les droits des femmes, femmes de la Révolution, le prêtre, la femme et la famille. Mais j'en suis pas tout à fait sûre. Mais pour Maria de Resme, ça, j'en suis sûre. Avec Louise Michel, il y a 150 ans, elle a fondé l'Association pour le droit des enfants et a lutté pour le suffrage universel. Bien sûr, il y avait Louise Michel, qui dévoua sa vie sous tous les cieux à l'enseignement, voix de l'indépendance et de la dignité. Et puis Nelly Roussel, la journaliste anarchiste et féministe qui prônait la libre maternité. Et figurez-vous, George Sand. C'est pas très étonnant, mais j'ai appris là qu'elle a créé la cause du peuple. C'était marqué sur sa banderole. J'y croyais pas. J'ai vérifié, c'est vrai. Elle y défendit tous les faibles, et les femmes en particulier. Il y avait bien sûr Sainte-Beuve, Saint-Simonien et ami de George Sand. Et puis en melon et parapluie, c'était John Stuart Mill lui-même, l'économiste anglais qui définit en 1860 l'organisation actuelle des relations entre les hommes et les femmes comme la seule cause de l'égoïsme, des inégalités et du mépris des autres. Et encore, André Léo, pseudonyme de Victoire Léodile Béra, journaliste féministe et communarde. Elle brandissait joyeusement son slogan majeur : « Non, La femme n'est pas une chose, un pur réceptacle. Elle pétrit son enfant de ses sentiments et de ses idées. Esclave, elle ne peut créer que des esclaves. Et bien sûr, Elizabeth Stanton et Lucretia Mott, rédactrice de la Convention de Seneca Falls, fondatrice du féminisme américain et première militante contre la ségrégation raciale. Il y avait aussi Paul Lafargue, bien sûr, proche de Proudhon, d'Engels et gendre de Marx, qui refusait le traitement inégalitaire que la société industrielle fait aux femmes et ouvre, dans son droit à la paresse, des perspectives qui se concrétiseront en mai 68 avec le féminisme radical. Et puis tant qu'on y était, on trouve Karl Marx aussi, savez-vous, qui protestait à la fois contre les mœurs faisant de la femme la propriété de l'homme, chose non humaine, marchandise, prostitution complétant le mariage, et contre la théorie du non-engagement réciproque de l'homme et de la femme qui guérirait tous ces maux. Il demande que la femme soit traitée comme un être humain libre et responsable, respecté et aimé comme tel. Un rêve. C'est plus la mode, mais je me sens très marxiste tout d'un coup. Et puis, Louise Julien, la chanteuse révolutionnaire, déportée par Napoléon III à Jersey, qui écrivit sur sa pancarte « Oui, oui, nous renaîtrons au bonheur ineffable pour voir la femme enfin à la céleste table. Oui, nous verrons enfin l'éternelle justice de nos droits sociaux construire l'édifice. » J'ai cru voir Pauline Roland, la journaliste féministe syndicaliste fourriériste, luttant pour des programmes d'enseignement égalitaire entre filles et garçons et dans le mouvement coopératif, qui fut arrêté par le gouvernement de Napoléon III et déporté en Algérie. Elle mourut en rentrant en France, sans avoir revu ses enfants. Victor Hugo lui a rendu un très émouvant hommage dans Les Châtiments. Et puis Flora Tristan, bien sûr, femme battue et humiliée, tyrannisée, qui a lutté toute sa vie pour faire avancer les droits des femmes, et en particulier le divorce. Il y avait aussi Eugénie Niboyer, avec son slogan « La femme ne doit pas se battre pour ses droits, mais elle doit les exercer. » Et on ferait bien, toutes et tous, de méditer sur cette phrase d'Eugénie Niboyer. Parce que des droits, on en a, mais on n'ose pas les exercer. Eugénie qui se battit avec Jeanne de Rouen et Adèle Esquiros dans leur journal La Voix des Femmes après 48. Et Auguste Bébel qui les suivait, auteur de La Femme dans le passé. Et bien sûr Victor Considérant, journaliste, législateur, disciple de Fourier, le premier à proposer le vote des femmes en 1848. Et Jenny Déricourt, institutrice et sage-femme, participant à la Révolution de 48. Elle crée « Société pour l'émancipation des femmes » avec cette devise « Émanciper la femme, c'est la reconnaître et la déclarer libre, l'égale de l'homme devant la loi sociale et morale et devant le travail. » Et Malthus, qui fut le premier à parler de l'imitation des naissances. Et Charles Fourier, qui instaura dans ses phalanstères l'égalité homme-femme dans le couple, les responsabilités familiales, le travail et les droits civiques. Claire de Rémusat était là, qui publia l'essai pour l'éducation des femmes, à la même époque, au début du XIXe. Et Mary Wollstonecraft, qui rédigea un traité des droits de la femme, qu'elle dédicaça à Talleyrand. Alors moi, j'envoie Juliette parler au sieur Talleyrand.
Dans mon sous-sol crasse où brûlent mes fourneaux, où les âmes damnées grillent de bas en haut, regardez qui est là, qui attise les flammes, régnant sur les enfers, le diable est une femme. Rien d'étonnant, n'est-ce pas? Des brunes jusqu'aux blondes, par elles sont advenus tous les malheurs du monde. Le diable est une femme et vous vous en doutiez, la place d'une femme n'est-elle pas au foyer? Sur mon lit calciné, lascive et si cruelle, comment pour m'invoquer faut-il que l'on m'appelle? Mes diables et mes hommes, et Dieu même en personne, tout simplement me nomme patronne. Depuis tant de prophètes, de savants vertueux, l'équation est logique, c'est la preuve par deux. On l'attend proclamer sur un ton formidable, le diable est une femme, les femmes c'est le diable. Et qu'elles soient victimes ou qu'elles soient complices de leurs malheurs et fils et de leurs maléfices, frappées dans les premiers talibans ordinaires, ces démons adorés car il faut les faire taire. Calcinée, lascive et si cruelle, messieurs, venez m'aider à ôter mes dentelles dans vos brûlants et moi, ainsi que je l'ordonne. Allez, appelez-moi patronne. Patronne! Quel que soit le brigand, il y a la corruptrice, consciente du pouvoir qui dort entre ses cuisses, qui susurre les ordres et les avis funestes, vous mes sœurs les salopes, les putains et les bestes. Derrière chaque type, sans foi ni loi ni âme, si vous cherchez le diable, vous trouverez la femme, la gueuse, la traîtresse, la garce, la sorcière, la fille de Borgia et la maman d'Hitler. Mon lit calciné, lascive et si cruelle, je vous attends, venez, mes belles demoiselles, que votre dernier mot, que la vie abandonne, soit dans un soubresaut, patronne! En attendant, je compte vos crimes et vos bassesses, tous vos pieux mensonges et vos histoires de fesses. J'encourage le vice, je provoque des guerres, je dirige le monde et Dieu me laisse faire. Parce que Dieu se fout bien de vos petits tourments, avec ses anges blancs dans son blanc firmament. Dieu est tellement belle, c'est une femme généreuse, mais ne vous y fiez pas, ça dégueule à l'humeur. Réponds à l'appel. Et pour me faire venir d'une voix qui frissonne, il suffit de redire patronne.
Et Bras-dessus, suivait Condorcet, Voltaire, Diderot, Sophie Volant, Germaine de Staël, Saint-Simon, qui préparèrent au siècle des Lumières, la reconnaissance des droits de la femme, qui mettra tout de même 2 siècles à commencer à se concrétiser. Il y avait bien sûr aussi Rose Lacombe, ou Claire Lacombe, l'actrice renommée qui participa en 1792 aux barricades et défendit les droits des femmes devant la Convention. Le gouvernement révolutionnaire la fit incarcérer pendant plus d'un an. Il y avait encore Théroigne de Méricourt et bien sûr Olympe de Gouges qui rédigea la Déclaration universelle des droits de la femme. Toutes deux féministes victimes de la violence révolutionnaire et de Robespierre en particulier, qui se félicitaient joyeusement d'avoir fait décapiter Olympe. Un peu plus loin, arrivait Poulain de la Barre, ce prêtre devenu protestant, auteur de l'égalité des sexes au XVIIe siècle. Un petit peu de patience. Francesca Solville.
Elles sont nées pour faire rêver dans les magazines et dans les vitrines. Les femmes ont tant de frivolité, demande à Gisèle et à Isabelle. Elles sont nées pour balayer et faire la vaisselle. Les femmes ont tant d'habileté, d'habileté. Demande à Hélène et puis à Guylaine. Demande à Gisèle et à Isabelle. Elles sont faites pour enfanter et savent dès l'enfance que c'est dans la souffrance. Les femmes ont tant de générosité, demande à Christine et à Micheline, demande à Hélène et puis à Guylaine, demande à Gisèle et à Isabelle. Elles sont faites pour travailler, et faire chacune 2 journées dans une. Les femmes ont tant d'agilité, d'agilité, demande à Colette et Antoinette, demande à Christine et à Micheline, demande à Hélène et puis à Guylaine, demande à Gisèle et à Isabelle. Elles sont faites pour lutter, quand c'est leur colère qui remue la terre. Les femmes aussi savent lutter, demande à Rosa et à Angela, demande à Colette et Antoinette, demande à Christine et à Micheline, demande à Hélène et puis à Guylaine, demande à Gisèle et à Isabelle, demande à Rosette et puis à Josette, demande à Guylaine et puis à Josette, demande à Christine et à Micheline.
Il n'y a qu'à demander. Et cette belle marche, fermez cette belle marche, en costume d'époque, s'il vous plaît. Marie de Gournay, Christine de Pisan, Aliénor d'Aquitaine, Marc Aurèle et Aristophane. Marie de Gournay, qui était l'amie de Montaigne, qui lui avait légué sa bibliothèque, Elle a vécu de sa plume au XVIe siècle et publia « Égalité entre les hommes et les femmes » et « Grief des dames » et puis « Les femmes ». Et Christine de Pizan, de femelle devint masle, de femelle devint mâle, pour élever ses enfants, jeune veuve au XIVe siècle. Amie de Clément Marot, elle devint poétesse, philosophe, chroniqueuse politique et même militaire au cours de Bourgogne, de Berry et d'Orléans. Elle osa proclamer que l'infériorité des femmes n'était que le résultat de l'éducation qui leur était donnée et de leur environnement. Et Aliénor d'Aquitaine, la phénoménale reine de France et d'Angleterre, diplomate, pacificatrice, qui mit ses époux et enfants et trois royaumes, plus le pape, à ses ordres, au XIe siècle, avant de mourir en religieuse. Et puis Marc Aurèle, l'empereur philosophe, qui se fit une priorité de l'instruction des femmes pour combattre la misère et ouvrit des établissements d'enseignement pour des milliers de jeunes filles pauvres. Et le dramaturge grec Aristophane, dont l'héroïne Lysistrata arrêta une guerre en organisant avec les épouses des combattants la grève du devoir conjugal. On dirait qu'on le redécouvre par-ci par-là, Aristophane, de ce temps. On dirait. Un petit peu de patience pour le dernier vinyle.
D'abord elle a goûté la pomme, même que c'était pas très bon. Y avait rien d'autre, alors en somme, elle a eu raison, eh bien non. Ça l'a pourtant arrangé l'homme, c'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche, il a bouffé la pomme jusqu'au trognon et vite fait. Oui, mais c'est la faute d'Ève, il a rien fait lui Adam. Il a pas dit femme je crève, rien à se mettre sous la dent. D'ailleurs c'était pas terrible, même pas assaisonné. C'est bien écrit dans la Bible, Adam il est mal tombé. Après ça, quand Dieu en colère leur dit avec des hurlements, manque une pomme à l'inventeur qui l'a volée, c'est toi Adam. Ève s'avance à fanfaronne et dit mais non papa c'est moi. Mais d'ailleurs elle était pas bonne, faudra laisser mûrir je crois. Alors c'est la faute à Ève s'il les a chassés d'en haut. Et puis Adam a pris la crève, il avait rien sur le dos. Ève a dit attends je cueille des fleurs, c'était trop petit. Fallait une grande feuille pour lui cacher le zizi. Après ça quelle triste affaire, Dieu leur a dit faut travailler. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Ève leur a dit j'ai trouvé. Elle s'arrange à la salope pour faire et porter les enfants. Lui poursuivait les antilopes et les lapins pendant ce temps. C'est vraiment la faute à Ève si Adam rentrait crevé. Elle avait une vie de rêve, elle s'occupait des bébés. Défrichait un peu la terre, semait quelques grains de blé. Pétrissait bols et soupières, faisait rien de la journée. Pour les enfants, ça se complique. Au premier fils, il est content. Mais quand le deuxième rapplique, il devient un peu impatient. Le temps passe, Adam fait la gueule. Il s'aperçoit que sa nana va se retrouver toute seule avec trois bonhommes à la fois. Là, c'est bien la faute à Ève. À l'école n'a fait que des garçons. Et le pauvre Adam qui rêve de changer un peu d'horizon, lui faudra encore attendre de devenir grand-papa pour tâter de la chair tendre, si même il va jusque-là. En plus, pour faire bonne mesure, elle nous a collé un péché qu'on se repasse et puis qui dure. Elle a vraiment tout fait rater. Nous les filles, on est dégueulasses, pareil que ça nous est naturel. Et les garçons, comme ça passe par chez nous, ça devient pareil. Mais si c'est la faute à Ève, comme le bon Dieu l'a dit, moi je vais me mettre en grève, j'irai pas au paradis. Non mais qu'est-ce qu'ils s'imaginent, j'irai en enfer tout droit. Le bon Dieu est misogyne, mais le diable il ne l'est pas. Ah.
Contre-histoire est terminée, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.
Chantons la liberté, défendons la cité. Assez de phrases solennelles, assez de mots vides de sens,
assez de mots vides de sens.
France est la plus belle victoire, c'est la conquête de tes droits. Ce sont là tes plus beaux exploits, que puisse enregistrer l'histoire.
Chantons la liberté, défendons la cité. Marchons,
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 s'en sauvera le peuple radical.
Peuple, que l'honneur soit ton guide, que la justice soit tes lois, que l'ouvrier avide, du manteau qui couvrait nos rois,
du manteau qui couvrait nos rois,
que du sein de la nuit profonde où l'enchaînait la royauté, le flambeau de la liberté s'élève.